Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est de retour avec une autre petite chronique. Et cette fois, c'est Noémie qui va nous la présenter. Donc c'était une chronique sur le recours de la famille de Jonathan Bétaise devant la Cour supérieure. C'est ça, la Cour supérieure?
Oui, la Cour supérieure du Québec.
C'est parfait. Fait que j'y laisse ma parole.
Oui, en fait, là, c'est ça. C'est le recours de la famille de Jonathan Bétaise et Jonathan Bétaise lui-même. Là. Je rappelle les faits là, de l'affaire Cédrica Provencher qui est justement liée à ce recours-là. En fait, le 1er juillet 2007, là, il y a eu la disparition de la jeune fille de 9 ans à Trois-Rivières. Les restes de son corps ont été retrouvés en décembre 2015 dans la forêt près de Saint-Maurice. Je crois que c'est à une dizaine de kilomètres à peu près là, de son lieu de disparition. Le principal suspect dans cette affaire-là a toujours été Jonathan Bétaise, mais qui n'a jamais été accusé de quoi que ce soit en lien avec l'affaire de Cédrica Provencher. En 2016, les policiers ont mené des perquisitions là, sur son lieu de travail et dans deux lieux de résidence pour motifs parallèles de possession de pornographie juvénile. Bétaise là, a été acquitté en 2018 de tous les chefs d'accusation. La juge, la coursière là, qui était assujettie à cette affaire-là avait d'ailleurs évoqué plusieurs erreurs de travail des policiers, mais aussi des démarches abusives et le viol de droits fondamentaux. Donc le procès là, en cours est en quelque sorte la suite de cet acquittement-là et justement des conclusions du juge, la coursière. On se retrouve là en procès civil contre la Sûreté du Québec pour Jonathan Bétaise et sa famille. Il y a également des procureurs et certains policiers, si je ne me trompe pas, qui ont été directement mis en accusation. Sinon, là, ils réclament 10 millions en dommages pour avoir brisé leur vie et sali leur nom. Là. Il y avait notamment des compagnies, là, il me semble, d'emballage là, qui portaient leur nom, le nom de Bétaise. Donc, ça a eu des répercussions très importantes là, sur leur entreprise. Donc, ils les poursuivent pour acharnement. Des audiences préliminaires là, par rapport à une demande de divulgation des documents là, concernant l'enquête de la SQ sur la disparition de Cédrica Provencher qui a été déposée devant la Cour là, par la partie plaignante, ce qui permettrait justement à la partie plaignante de pouvoir fouiller là-dedans et pouvoir faire preuve à la Cour du fait qu'il y a eu certains manquements. Donc, l'avocat de la famille soutient que plusieurs éléments en faveur de l'innocence de Bétaise là, n'ont pas été pris en considération par la SQ. Par exemple, il a été révélé justement pendant les audiences préliminaires que des traces d'ADN avaient été retrouvées sur le site des ossements de Cédrica Provencher qui seraient disculpatoires là, pour M. Bétaise. Donc, c'est ça, les tests d'ADN n'auraient pas pu prouver que c'était lui. Justement, là, il n'y a pas eu de conclusion très, très claire à ce niveau-là. Mais je crois, personnellement, là, c'est mon avis, là, que si ça avait été, inculpant, nécessairement, la SQ en aurait parlé. Donc, la décision du juge là, concernant la requête de divulgation, c'est que le juge Gregory Moore soutient que la Cour va déterminer là, pièce par pièce les éléments du dossier qui vont être soumis à une ordonnance de non-publication. Donc, fort probablement là, que ça va se passer là, justement à huis clos. Fait qu'en soutenant que le procureur général n'a pas été... dans le fond, sa décision s'est basée sur le fait que le procureur général n'a pas été en mesure de démontrer que la publicité des débats constituerait un risque sérieux pour l'intérêt public. Je sais pas si tu connais un petit peu la technique Mr. Big que les policiers peuvent utiliser, Jay?
J'avoue que non, je suis pas très familier avec la technique Mr. Big. J'imagine que tu vas nous en parler un petit peu plus.
Oui, définitivement. En fait, c'est justement une technique là, qui a été utilisée par la SQ pour essayer d'obtenir des aveux de la part de M. Bétaise. En fait, là, c'est une technique d'enquête qui qui est utilisé par les forces de l'ordre, là, notamment au Canada et je crois aussi en Australie, afin d'obtenir des aveux là, pour des affaires criminelles graves. Dans ce cas-ci, on parle d'un meurtre, enlèvement, etc. Sinon, c'est ça, c'est une technique qui vise vraiment à infiltrer la vie de la personne. Là, fait que c'est vraiment comme une opération de je perds mes mots, mais c'est vraiment de venir faire une approche là, amicale. Dans le fond, on s'incarne dans un autre personnage, on essaie d'avoir des aveux de la personne. Là, fait que ça va vraiment commencer avec une approche là, amicale. Puis on va introduire justement le Mr. Big là, qu'on appelle, là, puis qui va justement proposer au fil du temps là, la participation à quelques petits délits fictifs là, puis essayer de tenter d'avoir la confiance du suspect pour pouvoir pour faire en sorte qu'il se livre à des aveux. Dans le cas de M. Bethesda, là, ça avait été vraiment pas concluant. Cette technique-là est rarement utilisée, mis à part justement si les policiers ont des très forts doutes sur le suspect, parce que ça demande beaucoup de temps, donc beaucoup de ressources financières, mais également des ressources humaines là, assez considérable. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va ressortir vraiment de ce procès-là, de ce procès civil-là devant la Cour supérieure du Québec. Mais il faut prendre en considération aussi que la violation des droits fondamentaux, là, c'est une atteinte grave, là, notamment des garanties juridiques qui sont protégées par la charte, là, présomption d'innocence, protection également contre les fouilles et perquisitions. Donc, j'ai bien hâte de voir là, ce qui va ressortir de tout ça.
Donc, si j'ai bien compris, là, la technique Mr. Big, un petit peu, ça l'appelle, en fait, à l'expression « il y a un éléphant dans la pièce ». Donc, le Mr. Big, en fait, c'est le policier caché, c'est l'éléphant dans la pièce. Je sais pas, ça m'a vraiment fait évoquer à ça. Je trouvais ça un petit peu comique.
Ben, c'est vraiment, t'incarnes une autre personne pour essayer d'obtenir des aveux. Ça peut avoir beaucoup d'impact. J'ai notamment écouté récemment un reportage, un documentaire là, sur une disparition au Manitoba. Puis, il avait utilisé cette technique-là. Puis, la personne, dans le fond, le suspect dans cette affaire-là, qui avait justement été... qui avait connu un fameux Mr. Big, puis qui avait su par la suite que finalement c'était un policier infiltré. Ça a eu des conséquences, là, notamment au niveau de la confiance qu'il accordait aux personnes de son entourage, mais il y avait également eu des caméras qui avaient été installées là, chez eux avec des micros. Donc ça peut avoir des répercussions là, assez conséquentes.
Puis est-ce que ça avait été concluant finalement cette enquête-là?
Non plus, ça ressemble justement à l'affaire de M. Bethesda. Il n'y a rien qui a été ressorti de tout ça. Je ne me rappelle plus du nom de famille de la disparue. Là. C'est Tina Fontaine, si je ne me trompe pas. Là. C'était une jeune qui était supposément partie en fugue. Finalement, ça s'est avéré qu'on a retrouvé son corps dans la rivière Rouge. Puis il y avait un principal suspect qui n'a jamais passé aux aveux. Puis justement, il avait essayé de le faire via la technique Mr. Big. Puis ça n'avait rien donné.
En tout cas, d'après ce que je comprends aussi, c'est que pour que la technique Mr. Big fonctionne, mon Dieu, il faut vraiment passer longtemps du temps avec la personne pour qu'elle finisse par accorder ta confiance, puis d'une certaine façon devenir ton ami, là, parce que c'est ça, au final, il doit avoir la création d'un lien d'amitié pour entraîner justement cette personne à commettre des crimes mineurs pour ensuite amener des aveux. Là. Donc, c'est pas... j'imagine que c'est pas un projet de 2 mois, là. On parle d'un projet de plusieurs années. Là.
Je pense qu'il parlait là, dans l'affaire de Bethesda, là, 6 mois.
Okay.
Mais je crois que souvent, là, c'est ça, ça peut... Ça doit vraiment dépendre de ce qu'ils ont besoin, puis avoir est-ce qu'ils sont sur le point d'avoir des aveux ou est-ce que ça mène absolument nulle part, puis quand est-ce qu'on arrête, tu sais, c'est toutes ces questions-là qui peuvent se poser. Mais comme je disais, c'est vraiment une demande, ça demande beaucoup de ressources, tant financières que humaines.
Ben merci, Noémie, pour cette magnifique chronique. Oui, on va clairement suivre ce qui va se passer justement avec le recours de la famille de Jonathan Bethesda. Puis peut-être une petite question avant de terminer. Donc, Jonathan Bethesda ne peut pas être réaccusé justement des crimes contre justement Cédric a revanché parce qu'il a été acquitté. Juste.
En fait, il était acquitté de possession de pornographie juvénile.
Ah, okay.
Fait qu'il avait vraiment utilisé une enquête là, parallèle pour pouvoir faire avancer là, la principale qui était celle de la disparition et du meurtre de Cédrica Provencher, ce qui a été justement déploré là, par le juge Lacourcière là, justement lors du procès pour possession de pornographie juvénile. Fait qu'il pourrait y avoir des accusations concernant l'affaire de Cédrica Provencher parce qu'il n'y a jamais eu d'accusations qui ont été faites. Mais pour ce qui est de possession de pornographie juvénile, non, en effet.
Donc, sur ce, en fait, on vous laisse pour une petite pause publicité et peut-être musique si on décide qu'on en a envie. Donc, on vous laisse là-dessus. On se revoit juste après.